Bienvenue pour la suite et la fin, le ton du dialogue. Il y a un grand pianiste italo-suisse, Arturo Benedetti Michelangeli, qui est mort dans les années 90, comme ça, au Tessin, et qui un jour arrive pour un concert, et puis se met au piano, il s'arrête et dit « Le fa ne va pas du tout. Le fa là, il ne va pas. C'est pas possible. » Puis l'accordeur est là, puis il dit « Mais écoutez, je viens de finir. Je sais que vous êtes exigeant. J'ai passé du temps, j'ai tout regardé, j'ai tout vérifié. Non, non, je vous jure, le fa ne va pas. » Sur le Steinway. Alors l'accordeur revient, regarde, il y avait un cheveu sur le feutre. Alors il enlève le cheveu et Arturo Benedetti Michelangeli revient. Ah, cette fois-ci c'est bon. Qu'est-ce que vous avez fait? Il y avait un cheveu sur le feutre. Il était capable d'entendre la différence avec un cheveu sur le feutre. Alors on a aussi cette sensibilité, nous, voyez-vous, on a une perception de la façon de se parler, du ton qu'on utilise, hein, qui est très important. J'avais un oncle et une tante qui est dans le sud de la France. Chaque fois que j'étais chez eux en vacances, Marseille, les Calanques, Sormiou, c'est superbe, c'est magnifique là-bas. C'est une propriété là-bas. Puis, mais ils avaient une façon de se parler. Je disais, mais pourquoi vous engueulez tout le temps? Ils disaient, mais on s'engueule pas, on se parle. Et moi, j'étais pas habitué à ça dans ma famille. Le ton, la façon de se répliquer, de se dire les choses. J'étais chaque fois blessé. Justement, mon souvenir d'enfance, c'est que j'étais blessé. Une fois, je leur ai posé souvent la question. Et pour eux, ils voyaient pas le problème. Hein, parfois, on est aveugle, on voit pas le problème. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment demander à Dieu. Dans toutes ces choses-là, vous voyez, il y a une grande question. Mais mon Dieu, délivre-moi de mon mal caché. Parce que la plupart des gens sont pas de mauvaise volonté. On n'est pas de mauvaise volonté. On est des bons bougres. Mais c'est des choses qui sont là sans qu'on s'en rende compte, voyez. C'est des habitudes, c'est des manières de faire, héritages familiaux, façon de réagir. Et c'est comme Obélix, on est tombé dedans quand on était petit, puis on se rend même plus compte, voyez. Et donc, on perpétue des mécanismes, des façons de faire, de dire. Et s'il n'y a pas, à un moment donné, un événement, une circonstance ou quelqu'un qui dit, mais tu vois, c'est ça, hein. Et il y a un très beau serment, je pense qu'Alan Newman, mon Dieu, délivre-moi de mon mal caché. C'est une parole d'un psaume. Alors il dit, par exemple, c'est l'histoire de David, vous voyez. David reçoit le prophète Nathan, et Nathan dit, écoute, il y a un problème dans ton royaume, faut que je le dise, quand même, c'est grave. Il dit, alors explique-moi, c'est toi. Puis il dit, ben voilà, il y a un riche propriétaire qui avait un troupeau de chèvres, vraiment extraordinaire, et puis il y avait un pauvre gars à côté, il avait une biquette. Alors il la prenait chez lui, il dormait avec, il la cocolait, il partageait le repas avec, ensemble. Enfin, magnifique, c'était toute sa richesse. Et un jour, le riche propriétaire reçoit un visiteur étranger. Vous savez pas ce qu'il a fait, dit le prophète Nathan à David. Il est allé piquer la biquette du pauvre. Il a fait le méchoui avec. David dit, mais c'est pas possible. Dans mon royaume, oui, dans ton royaume. Il déchire ses habits, se fâche, il engueule. Qu'on amène ici les gens, je vais rendre la justice tout de suite. Et Nathan dit, mais c'est toi, c'est toi qui as fait ça. T'avais toutes les filles du royaume en tant que roi. Uri, ton général, n'avait qu'une femme. C'était Bézabée. Tu l'as piqué et t'as fait tuer Uri au combat pour cacher ton méfait et pour cacher la grossesse de Salomon. Oh, ah ben ça, alors ça, pensez pas que c'était moi. Et ça nous vaut un magnifique psaume, le psaume 50, qui est le fameux Miserere. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ma faute est toujours devant moi. Lave-moi avec l'hysope et je serai pur. Purifie-moi et mon cœur sera blanc comme neige. Voilà, c'est magnifique le psaume. Mais d'un coup, il a fallu un choc extérieur, une parole extérieure, un événement qui mette en lumière le drame intérieur, voyez. Parce que comme on fonctionne et comme c'est, j'allais dire, comme une deuxième nature, on ne se rend pas compte de ces choses-là. Et céder s'appelle la correction fraternelle. Voilà. Alors, pas toujours facile. Dans une somme théologique, dans une bibliothèque de dominicains, saint Thomas d'Aquin se pose la question à un moment donné, faut-il faire la correction fraternelle à son supérieur? Et alors, Thomas d'Aquin dit, écoutez, d'abord c'est un supérieur, donc il représente l'autorité de Dieu dans la communauté, voilà, donc il y a première prudence. Mais ensuite, oui, parce que c'est aussi un être humain, un frère, et qu'il a besoin du regard des autres pour avancer. Et donc, oui, c'est légitime de faire la correction fraternelle à son supérieur. Et dans la marge écrit avec une main tremblante au crayon papier, c'est marqué, non, j'ai essayé, c'est inutile, laisse tomber. un vieux frère qui a dû faire les frais de ça, voilà, donc... Le ton du langage, la nécessité de l'humour, ça c'est pas mal, l'humour et la façon de prendre la distance.